Média. 9h, 11h. Philippe Bandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de finir la semaine avec vous et Culture Média de retour à son horaire habituel, 9h, 11h. Au menu Média et Culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Guy Bedos disait, il faut rire de la mort, surtout quand c'est celle des autres. Exactement, on va lui rendre un hommage en fin d'émission. Pas à la mort, à Guy Bedos. Il y aura d'abord le journal des médias de Cyril Lacarrière, le journal de la culture d'Hélène Manarino et le retour de ses portraits inattendus, aujourd'hui Macha Merrill. Notre info média, les conséquences du Covid sur le football, le premier spectacle télé de France et d'Europe, et ça se compte en centaines de millions d'euros. Comme les matchs sont annulés, certaines chaînes refusent de payer des droits pour rien, normal, mais alors les abonnés aussi refusent de payer leur abonnement aux chaînes pour rien. Et oui, ça fait réfléchir. Des invités ensuite, Claire Carrard, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International, qui a réalisé des scores records pendant le confinement, et puis la romancière Safia Asdine, qui publie cette semaine Mon père en doute encore chez Stock, un roman très personnel. Et c'est aujourd'hui notre 200e et on est ravis de la passer avec vous. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Bandel, je suis ravie de la passer aussi avec vous. Bonne 200e.
Merci. Le son.
C'est la fête.
Mais oui, c'est la fête. C'est Jérémy et Louise en régie. Mais quel joli son. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour, bonjour Philippe Bandel, bonjour à tout le monde, à tous.
Bon anniversaire à vous aussi, place au journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Trump lance l'offensive sur Twitter et Facebook. Fox News qui rassure ses téléspectateurs. Le marché publicitaire en berne dans les médias. Molotov qui gagne des abonnés. Et la fête de la musique qui aura bien lieu sur France 2.
On commence par les audiences évidemment. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision?
Hier soir, les Français se sont offerts une belle dose de nostalgie. Ils sont allés voir Les Bronzés à Galaswinda. 4 700 000 personnes ont regardé La Troupe du Splendide sur TF1. En deuxième position, la série Cassandre sur France 3 avec plus de 4 200 000 téléspectateurs. TF1 et France 3 sont très loin devant les autres. France 2 est sur la troisième marche du podium avec seulement 1 800 000 téléspectateurs devant Envoyé Spécial.
Et Cyril, hier soir... Édouard Philippe a présenté la fin de la phase 2 du déconfinement, ou plutôt la phase 2 du déconfinement. Combien de Français ont regardé ces annonces? Il était aux alentours de 17h.
Il y avait en tout plus de 6 millions de Français hier après-midi devant TF1 et France 2. Et comme d'habitude, on connaîtra le score des chaînes info à 11h seulement.
Cyril, on va...
C'est la fête, hein, Philippe.
Oui,
ils ont ouvert des bouteilles en régie et les tapis, les audiences et les virgules, on s'est un peu tout mélangé les pinceaux. Vivement la 201e. Cyril, on démarre ce journal des médias avec Donald Trump qui déclare la guerre aux réseaux sociaux.
C'est peu dire que Donald Trump ne décolère pas. Je vous rappelle la raison de son courroux. Twitter a identifié deux de ses messages comme étant faux et méritant d'être vérifiés. Alors évidemment, ça n'a pas du tout plu à Donald Trump qui depuis s'en prend régulièrement à Twitter et bon d'ailleurs à tous les réseaux sociaux. Et comme il est président, eh bien, il a décidé d'aller encore plus loin. Il a signé cette nuit un décret présidentiel qui risque de limiter la liberté des réseaux sociaux. C'est clairement une punition pour les entreprises de la Silicon Valley. Pour résumer, ce décret présidentiel va permettre à celles et ceux qui estiment être injustement punis ou bannis ou censurés par les réseaux sociaux de pouvoir plus facilement les attaquer en justice. Selon Donald Trump, ce décret doit surtout préserver la liberté d'expression, lui qui estime visiblement en être privé.
Et alors là où c'est encore plus fort, c'est que dans cette situation inédite, Donald Trump s'est trouvé un allié inattendu.
Oui, effectivement, c'est un allié pour le moins surprenant puisqu'il s'agit tout simplement de Mark Zuckerberg. Le patron de Facebook est même allé quelques heures avant la signature de ce décret sur la chaîne préférée de Donald Trump pour critiquer le choix de Twitter. À ses yeux, pas de doute, les entreprises privées ne doivent pas être les arbitres de la vérité. Un discours qui n'est pas une surprise, Zuckerberg répète cette phrase à l'envi pour ne jamais avoir à prendre de position ou à vérifier sur ce qui se dit sur Facebook. Alors c'est sans doute pas un hasard si Mark Zuckerberg est allé s'exprimer sur Fox News. Il sait que Facebook est très souvent critiqué par le camp républicain. Les alliés de Donald Trump l'accusent de partialité et de brider la liberté d'expression de leur partisans, ce que toutes les études démentent sans aucun problème. Mais on dirait bien que Mark Zuckerberg a eu envie de se faire bien voir par Donald Trump. Jack Dorsey, lui, le patron de Twitter, n'a pas l'intention de changer sa manière de faire. Il a répondu sur Twitter, bien sûr. Il prévient que son entreprise continuera de souligner les informations incorrectes ou contestées qui sont liées à des élections. Quant au décret de Donald Trump, Plusieurs experts juridiques américains estiment déjà qu'il risque d'être jugé comme contraire à la Constitution. À leurs yeux, il empiéterait sur les droits des entreprises privées en vertu du premier amendement. Un recours en justice qui n'inquiète pas Donald Trump. Nous en sortirons très bien, a-t-il assuré hier.
Et alors Cyril, vous venez de nous dire que Mark Zuckerberg était allé sur Fox News, une chaîne qui sait visiblement rassurer ses téléspectateurs.
Figurez-vous que selon une étude américaine, les aficionados de la chaîne conservatrice font partie des personnes les moins inquiètes concernant le coronavirus. Sur une note de 1 à 10, 17 ans le niveau d'inquiétude maximale, celles et ceux qui regardent Fox News notent leur niveau d'inquiétude à 5,47. C'est 1,4 de moins que ceux qui regardent la chaîne MSNBC, plutôt une chaîne étiquetée à gauche. Pourquoi une telle différence? Est-ce que les équipes de Fox News expliquent mieux la situation que celles des autres chaînes d'info? Peut-être qu'il faut chercher l'explication ailleurs. Fox News a très longtemps diminué l'importance du coronavirus, comme le faisait d'ailleurs Donald Trump. Il semble que la technique de l'autruche, qui se met la tête dans le sable, a pu avoir des effets sur leurs partisans.
Vous savez quoi, j'aimerais bien lire la même étude en France. Si des patrons de journaux ou des patrons d'instituts de sondage nous écoutent, et je sais qu'ils nous écoutent, on aimerait bien lire ça. L'Institut Kantar, Cyril, a révélé les chiffres du marché publicitaire pour l'audiovisuel. Et comme, hélas, on pouvait le craindre, le choc est très rude.
Et Kantar parle même d'une baisse sans précédent. Je vais vous donner quelques chiffres pour illustrer cette baisse. Entre le 16 mars et le 17 mai de cette année, il y a eu 60% de publicité en moins à la télévision. Un recul qui vaut autant pour le nombre de spots que pour la durée publicitaire. Il y a 20% d'annonceurs en moins et un tiers d'écrans publicitaires en moins par rapport donc à 2019. Ces baisses sont d'autant plus frappantes qu'en 2019, justement, le marché de la publicité était en hausse par rapport à l'année précédente. Concernant la radio, les baisses sont du même acabit. La durée de la publicité, du nombre de spots et d'annonceurs ont toutes reculé de plus de la moitié. Le niveau de la baisse est encore plus important pour le marché de la presse écrite. On en parlait hier avec l'appel à l'aide de l'Alliance de la presse d'information générale. Les journaux et les magazines font très mal et doivent ajouter une nouvelle crise à la crise de leur modèle économique. Dans ce contexte, une reprise rapide est-elle possible? Je vous propose d'écouter la réponse de Florence Doré. Elle est la directrice marketing France de Kantar Division Média.
Sur la télévision, on a perdu beaucoup d'annonceurs, mais ce sont peut-être des annonceurs qui ont reporté leur communication, pas forcément annulé. Ils les ont bien souvent adaptés. Le cinéma, par exemple, il est complètement à l'arrêt, donc il va reprendre. En plus, c'est un média qui est assez petit en termes de volume, mais quand une personne est dans une salle, il est très captif. Donc ça va reprendre, bien évidemment. La télévision va reprendre parce que même si on n'a pas les scores d'audience aujourd'hui qu'on avait pendant le confinement, non, nous avons tous les gros annonceurs qui ont des communications à donner parce que les magasins rouvrent, parce que le gouvernement fait des aides aussi, des bonus sur l'automobile. Il va y avoir forcément à nouveau de la communication sur l'automobile. Tous les secteurs qui étaient à l'arrêt, ils vont reprendre leur communication. On imagine que si le tourisme revient dans quelques temps, on va avoir à nouveau des communications sur ces secteurs.
Et Cyril, malgré cette situation, il y a quand même eu des bonnes surprises.
Effectivement, Kantar révèle que malgré la crise, de nouveaux annonceurs sont venus faire leur pub à la télé, à la radio et dans les journaux. La directrice marketing France de Kantar nous explique de qui il s'agit et comment elle explique l'émergence de ces nouveaux venus.
Souvent, ce sont des annonceurs qui étaient liés à des nouveaux comportements, des nouvelles consommations en fait. On a vu des annonceurs sur la formation, sur le coaching, les annonceurs sur de l'alimentaire, mais sur des campagnes différentes ou des plus petits annonceurs qui n'avaient jamais communiqué jusqu'à présent. Alors, il est probable que les régies pas mal, publicitaires aient un petit peu modifié leurs tarifs et que le ticket d'entrée soit un petit peu différent, donc qui a donné la possibilité à un certain nombre d'annonceurs d'accéder à des grands médias. C'est une première approche. Ils ont goûté à la télévision, à la radio, à la presse. Et s'ils sont satisfaits de ce type de communication,
ça ne peut se faire que dans des périodes de crise telles que l'on connaît actuellement.
Cyril, on termine avec la fête de la musique qui aura bien lieu sur France 2.
Oui, sur France 2 et dans la salle de l'Accor Arena à Paris, mais une salle vide. La chaîne a dévoilé son dispositif spécial hier. Laurie Tillman et Garou seront de nouveau les MC de la soirée. Ils accueilleront plus de 35 artistes qui viendront se produire sur scène et donc uniquement pour les téléspectateurs de France 2. Parmi eux, Catherine Ringer, Benjamin Biolay, Vita Sliman, Jig Gims, Patrick Bruel, Christine Dan de Queens et...
You are the best in me.
Eh oui.
Oh non, c'est pas possible.
Eh oui.
Mais si.
Vous avez
si.
Pas réussi
oui.
à nous le refourguer. On le sort.
Je vous demande de vous arrêter, Philippe Bandel.
On le sort par la fenêtre, par la porte, Cyril Lacarrière nous le remet par la fenêtre. Qui est-ce?
Oui, Tom Leb, notre oui. champion de l'Eurovision avortée, sera bien là le 19 juin pour fêter la musique sur France 2. De quoi nous réjouir, me réjouir, et je le sais, réjouir d'autres personnes.
Mais évidemment.
Beaucoup de monde dans cette équipe et beaucoup de monde en France.
Exactement.
Pour cette soirée du 19 juin, nous voilà, on peut partir en week-end le cœur léger.
Mais vous connaissez le proverbe, pas de 200e sans Tom Leb. Merci beaucoup, Cyril Lacarrière. On vous retrouve lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end. Vous connaissez pas ce proverbe, il est
non,
hyper
j'aime
connu.
Bien, j'aime bien, mais je le retire maintenant. À suivre dans l'info média du foot avec l'interruption des championnats en Europe et leur retransmission à la télé. Les chaînes et les abonnés se retrouvent lésés. Comment se gère cette crise? On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Et c'est l'article de l'info média du jour.
Oui, fin de saison pour la Ligue 1, interruption des championnats de foot espagnol, italien, anglais et surtout de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Le coronavirus a privé les amateurs de football de nombreux matchs, pas seulement dans les stades, mais évidemment aussi à la télé. Et c'est la raison pour laquelle Patrick Drahi, propriétaire des chaînes RMC Sport, veut récupérer une partie des 350 millions d'euros versés à l'UEFA, un petit peu comme avant lui, Canal+, a économisé des dizaines de millions d'euros en cassant son contrat avec la Ligue suite à l'arrêt des Ligues 1 et 2. Oui, mais dans ce cas, les abonnés de ces chaînes seraient en droit de demander à être remboursés, puisqu'eux aussi payent pour voir des matchs qui n'existent pas. C'est la thèse de l'association de consommateurs UFC Que Choisir qui encourage ses adhérents à le faire massivement. Pour en parler, nous sommes avec Pierre Maes. Bonjour.
Bonjour et bon anniversaire.
Merci beaucoup. On vous a souvent entendu dans cette émission. On est ravis de vous entendre, spécialiste dans la négociation des droits télé du foot et auteur du livre « Le business des droits télé du foot, enquête sur une bulle explosive ». Également avec nous, Camille Gruyer. Vous êtes là, Camille ?
Oui, bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à Que Choisir, le mensuel de l'UFC. C'est l'Union fédérale des consommateurs. Je vais commencer avec vous, Pierre Maes. Pour qu'on comprenne bien l'enjeu, quelle chaîne diffuse quoi ?
Ah oui, évidemment, en France, c'est assez éclaté. On peut dire que aujourd'hui, la situation, c'est que le championnat de France, la Ligue 1, est diffusé sur Canal et beIN. Mmh. La Ligue des Champions, pour prendre les droits majeurs, est diffusée sur RMC Sport. Et on va dire le reste, les plus petits championnats, je parle du foot, les plus petits championnats, les championnats comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne sont diffusés sur beIN.
Exactement, on peut voir en ce moment les matchs en Allemagne sur beIN, avec dans des stades vides, mais des vrais matchs. Camille Gruyer, combien coûte un abonnement à chacune de ces chaînes, à chacune de ces plateformes?
Alors ça dépend, parce que c'est très compliqué de s'y retrouver pour un consommateur, tant l'offre est éclatée et les formules d'abonnement proposées complètement éclectiques, selon qu'on est chez tel ou tel FAI, selon qu'on souscrit directement sur le portail de la chaîne en question ou par l'intermédiaire d'un distributeur de l'offre, dont le canal est, entre autres. Mais les offres croisées sont tellement nombreuses qu'aujourd'hui, les prix sont très variables. Vous prenez un abonné à SFR, par exemple, il va payer 9 euros par mois pour accéder à RMC Sport, alors qu'il faudra payer 25 euros par mois pour la même chaîne si vous n'êtes pas abonné à SFR, étant donné qu'ils font partie du même groupe. Mmh. Donc c'est compliqué, mais grosso modo, on peut dire que c'est entre 9 euros pour les offres les plus accessibles et plus de 40 euros pour un abonné qui ne souscrit qu'à l'offre.
Mais évidemment, j'explique aux gens qui ne suivent pas le football, si je veux voir tous les matchs de toutes les compétitions, comme évidemment ils ne sont pas d'accord entre eux, il faut que j'ai tous ces abonnements, donc on peut arriver à du 80 euros par mois, et on peut s'abonner, se désabonner en fonction des droits qui changent. Pierre Maes, combien ça coûte maintenant de l'autre côté de la chaîne, aux chaînes, tous ces droits de diffusion?
Comme vous l'avez dit en introduction, tous ces droits de diffusion non seulement coûtent extrêmement cher, mais le coût a explosé sur les années qui ont précédé. Et la raison en est, il y a une raison en fait, c'est la concurrence entre les opérateurs. En France, on a une situation, enfin je vais presque dire on a une situation unique où 4 ou même 5 opérateurs se sont livrés à une concurrence acharnée pour acquérir les droits, ouais. Ce qui a abouti à une explosion des montants déboursés par les chaînes. Et il n'est pas étonnant aujourd'hui de voir l'opérateur Altice, propriétaire de RMC Sport, jeter l'éponge dans les droits TV du foot parce que, oui, ils doivent bien se rendre à l'évidence que cette stratégie n'a pas fonctionné.
Il faut se rendre compte, j'ai parlé en introduction, en préambule, de centaines de millions d'euros, mais on peut le lire dans votre article, Camille Gruyer, que vous écrivez dans UFC Que Choisir, l'addition s'est élevée à 1,125 milliards d'euros pour la période 2021-2024, pour la seule Ligue des Champions, c'est complètement dingue. Combien de matchs ont été annulés avec ce confinement ?
À qui vous demandez ?
Alors, qui veut répondre ?
Moi, j'ai pas le chiffre exact.
Je vais demander à Pierre, qui les regarde tous.
Oui, c'est sûr que... C'est sûr que je sais que vous les regardez aussi, Philippe. Ouais. Donc je sais que
je regarde plus la Ligue 2. Je vais dire, il y a eu la Ligue 2 qui s'est arrêtée, la Ligue 1 qui s'est arrêtée, la Champions League, on ne sait pas si s'est arrêté, ça va être reporté. Bref, beaucoup de matchs arrêtés. Vous avez raison. Peu importe le nombre de matchs, qui compte, c'est que c'est pendant certaines périodes des mois pour lesquels on paye un abonnement, le service rendu est nul, et évidemment, parce qu'il n'y a pas de match. Donc, il y a deux parties qui sont lésées, à la fois les patrons de chaîne qui ont payé pour la retransmission de ces matchs, et exactement, les spectateurs qui n'en ont pas eu pour leur argent. Pierre Metz, je vais commencer par les patrons de chaîne. On a entendu Patrick Drahi, le patron d'Altice, qui a demandé des comptes à l'UEFA. Il a payé pour retransmettre la Ligue des Champions et la Ligue Europa, qui ont été arrêtées mi-mars. Il demande à être remboursé. Il a payé déjà 175 millions d'euros en juillet et à nouveau 175 millions d'euros en janvier. Est-ce que Patrick Drahi a des chances de récupérer, de revoir son argent ?
Alors je vais répondre directement à ça. Il a des chances de revoir son argent, mais il a déclaré en montrant un petit peu ses muscles qu'il espérait les récupérer très vite. Et là je n'y crois pas. L'UEFA est très bien organisée, va avoir une batterie d'avocats pour les défendre. Et tout dépend aussi de l'intitulé de ce qui est écrit dans le contrat entre l'UEFA et RMC Sport, notamment sur ce qu'on appelle la force majeure. Il peut y avoir des clauses de force majeure qui stipulent que si l'ayant droit n'a pas livré les matchs, eh bien, il peut quand même recevoir le paiement de la chaîne.
Ça sera ma dernière question avant qu'on marque une pause. Selon l'état de vos informations, est-ce que cette clause existe ou non dans le contrat ou est-ce qu'on l'ignore ?
Je n'en sais rien. Si j'écoute Patrick Drahi, j'imagine que non, qu'il a de bons arguments à faire valoir. Mais il faut quand même savoir que tous ces contrats, en général, sont rédigés au bénéfice des ligues et des ayants droit parce qu'ils sont en position de force.
Est-ce que ces contrats sont rédigés au bénéfice des téléspectateurs ? Ça m'étonnerait. C'est la question qu'on va poser dans quelques instants à Camille Gruyer.
Le championnat de football et crise du coronavirus, la coupure commence à être longue pour les chaînes qui retransmettent habituellement les matchs et les abonnés qui rêvent de revoir du ballon rond sur leur petit écran. On continue à en parler avec nos spécialistes dans Culture Média sur Europe 1.
Ah, le foot, il n'y a plus que ça. La France est foutue.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Il n'y a plus de foot à la télé depuis plusieurs mois. Comment se gère la crise du côté des chaînes qui habituellement retransmettent les matchs et pour les abonnés qui les regardent ? On en parle dans Culture Média avec Pierre Maes, expert international en droit télévisé sportif, et Camille Gruet, journaliste à UFC Que Choisir, Philippe.
Pierre Maes de la Belgique dont vous nous parlez, on disait tout à l'heure que Patrick Drahi, le patron d'Alice, donc de fait d'RMC Sport, a demandé des comptes à l'UEFA pour récupérer une partie des 175 millions d'euros qu'il a versé. Vous dites qu'il a très peu de chances de revoir son argent, mais il y a quand même un précédent, puisque le patron de Canal+, ou plutôt Canal, a économisé des dizaines de millions d'euros en réussissant à rompre son contrat avec la Ligue de foot professionnelle. Pourquoi Canal+ a réussi là où, dites-vous, Altice risque d'échouer ? Qu'est-ce qui a marché pour Canal+ ?
C'est que, en fait, les délais de paiement prévus par les deux contrats dont nous parlons étaient différents. Donc, en fait, ici, il faut voir où est l'argent, dans quelle poche il est. Ouais. RMC a payé en avance, donc ils ont payé la moitié de la saison au début de la saison en août et la deuxième moitié en janvier, ouais. À la moitié de la saison. L'argent est dans la poche de l'UEFA. Tandis que pour la Ligue 1 et le contrat avec Canal+, il restait encore deux tranches à payer. 14 mars, coronavirus, il restait plusieurs dizaines de millions à payer pour Canal. Donc l'argent est dans la poche de Canal. Il est facile pour Canal de dire « il reste dans ma poche ».
Évidemment. Et s'ils n'étaient pas d'accord, on faisait un procès. Ça tardait. Donc j'imagine un bon accord vaut mieux qu'un mauvais procès. Camille Gruyer, je me tourne vers vous. Il n'y a plus de retransmission de foot à la télé. Pourtant, les abonnés à Canal+, à Bein Sport, à RMC Sport continuent à payer leur abonnement. Est-ce que ces chaînes-là envisagent un remboursement ?
Alors non, pas du tout, pas de remboursement global prévu au programme, alors que effectivement les abonnés continuent à payer pour avoir très 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 peu de matchs. Alors certes, on leur offre des contenus adaptés à la situation. Hein. Les chaînes ont mis en place des programmes assez rapidement sur des interviews de sportifs en confinement, des retransmissions de championnats historiques, des grandes finales de tennis, programmes complémentaires, mais pas de remboursement prévu.
Et ils vous disent quoi quand vous les avez contactés, vous avez fait un papier là-dessus, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ouais. Parce que justement, ils ont des freins en moins.
Ils ont du foot en moins. Et, ouais. Et le foot, c'est quand même ce qui tire l'abonnement à ces chaînes pour la majorité des abonnés. Hein. C'est le nerf de la guerre, c'est le foot. Les abonnés changent d'ailleurs d'abonnement à mesure que les droits changent de main. Et c'est ce que leur permet les abonnements sans engagement dont on se réjouit. Donc c'est une très bonne chose pour les abonnés de pouvoir partir quand ils veulent, mais enfin quand il n'y a pas de match et qu'ils continuent à payer, alors ils peuvent se désabonner, mais c'est pas leur souhait. Leur souhait, c'est de voir du foot à la télé. Donc ce qu'ils auraient aimé, c'est effectivement que leur opérateur, que la chaîne les contacte en leur disant ok, bon, on voit bien que là il n'y a plus de foot, on va vous faire une fleur, on va vous enlever, on vous enlever 10€ sur votre abonnement exceptionnellement pendant le mois de mars, par exemple, ou un geste commercial qui n'aurait fait que attirer la sympathie des abonnés au final. Et là, ils se retrouvent à demander au cas par cas, ben dis donc, moi, je me suis abonné à 4 chaînes pour avoir tous les championnats de foot et puis ben, je me retrouve à tout payer et avoir 0 match. Donc, ils les demandent, c'est ce qu'ils nous ont témoigné. Hein. Les abonnés sont venus me voir en disant, mais c'est quand même une situation qui est problématique pour eux. Et tous auraient souhaité avoir un dédommagement. Ceux qui ont contacté les services clients de leur prestataire principal, que ce soit le FAI ou la chaîne directement, ont obtenu des ristournes. Donc c'est un peu la bonne nouvelle, mais nous ce qu'on aurait aimé, c'est qu'effectivement il y ait une démarche volontaire, un petit geste commercial qui fasse, on comprend très bien que vous êtes chez nous pour le foot. On va faire un petit geste et puis comme ça voilà, c'est il me semble-t-il un pas vers les abonnés qui ne peut que conforter la confiance en la chaîne.
Les FAI, c'est-à-dire les fournisseurs d'accès à Internet, j'imagine que vous les avez contactés et les chaînes également, que vous ont-ils répondu?
Ils nous ont répondu que non, ils n'avaient rien prévu de particulier, qu'ils avaient mis en place des programmes alternatifs, ils ont un peu botté en touche. Je salue au passage le geste commercial de Canal+, qui lui a facilité quand même a acquiescé à toutes les demandes des abonnés. C'est difficile de savoir exactement combien il y en a eu, hein, des demandes en vrai. Est-ce qu'il y a que quelques dizaines de gens qui nous ont contactés ou est-ce que c'est un problème massif? Donc je pense on aurait plus parlé si ça avait pris une ampleur démesurée. Mmh. Les abonnés savent aussi que c'est transitoire et puis comprennent aussi que c'est la faute à personne finalement ce coronavirus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À un moment donné, là, il y a une espèce de cascade de responsabilités qui s'enchaîne. Les diffuseurs continuent à facturer parce qu'ils n'ont pas le choix puis qu'eux-mêmes continuent à être facturés par l'UFA. Donc bon, c'est une cascade de responsabilités qui fait qu'à la fin, il y a des dommages collatéraux à tous les niveaux et puis qu'à la fin, il faut espérer que tout se rétablisse au plus vite.
Qu'est-ce que vous conseiller, Camille Gruyer, que chacun appelle chacun de ses fournisseurs? Est-ce qu'il est possible en France de faire une action de groupe ou est-ce que ça serait vraiment un tromblon pour écraser une mouche, comme on dit?
C'est un peu ça, parce que c'est très compliqué de mettre en place une action de groupe. Hein. Ça a l'air simple comme ça. On collecte les témoignages de personnes mécontentes et puis on agit tous ensemble. Dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ça me paraît un petit peu démesuré comme moyen pour obtenir un dédommagement. Vous savez, même quand c'est des préjudices qui vont vraiment au-delà de ce dont on parle ce matin, il est très difficile d'obtenir un dénommagement, même symbolique.
Bien sûr, on l'a vu avec notamment les voitures diesel, par exemple.
Entre autres, exactement. Ouais. Donc là, ça me semble un petit peu démesuré. Néanmoins, les personnes qui s'estiment lésées, parce qu'elles sont abonnées exclusivement pour le foot, qu'elles n'ont pas trouvé satisfaction dans les contenus complémentaires, contactez le service client de votre fournisseur d'accès Internet ou le service client de votre opérateur, votre distributeur de l'offre, de la chaîne, et... discuter.
Vous savez quoi ? Et je pense à quelque chose, si beaucoup, beaucoup de gens, je vais avoir l'avis de Pierre Metz là-dessus, si beaucoup, beaucoup de gens d'abonnés à RMC Sport disent « nous, on veut payer moins cher », ça fera un très bon argument pour peut-être Drahi pour obtenir gain de cause auprès de l'UEFA, ou est-ce que je dis une bêtise ?
Certainement. Et je rejoins tout à fait votre intervenant sur les difficultés en fait des chaînes à péage à mettre en place une solution globale, parce que c'est énormément d'argent. Si Canal Plus dit aujourd'hui à tous ses abonnés sport, c'est plusieurs millions, vous ne devez plus payer, c'est un manque énorme dans ses comptes. Et donc en fait il joue un peu sur l'inertie finalement des abonnés, et ils disent si vous voulez un remboursement, vous devez faire quelque chose, vous devez être actif. Donc ça veut dire qu'il y aura une masse de consommateurs qui vont pas bouger. Il y a personne en Europe qui a fait une solution globale de remboursement. Sky en Angleterre par exemple a fait exactement la même chose. Ils disent vous pouvez mettre votre abonnement sur pause, mais vous devez faire quelque chose.
On a bien compris. Merci beaucoup de ces conseils. Merci Pierre Metz, spécialiste dans la négociation des droits télé du foot et auteur du livre Le business des droits télé du foot, enquête sur une bulle explosive. On voit que ça n'en finit pas d'exploser, cette bulle, aux éditions FIP, FYP. Et Camille Gruyer, vous êtes journaliste à Que Choisir, le mensuel de l'UFC, faut-il le répéter, l'Union fédérale des consommateurs. Merci d'avoir été tous les deux avec nous en direct sur Europe 1.
Notre prochaine invitée est Claire Carrard, la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International, le meilleur des médias étrangers traduit en français, et on l'accueille dans un court instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Claire Carrard.
Bonjour Claire Carrard.
Bonjour.
Vous êtes la directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International, un magazine d'un genre nouveau. Enfin, genre nouveau, mais quand même qui va fêter ses 30 ans à l'automne. C'est un concept très simple et très fort. Pour qui ne le connaîtrait pas, racontez.
Courrier International, c'est un magazine dédié à l'actualité internationale. Nous ne produisons pas d'informations propres. Nous sélectionnons et traduisons les meilleurs articles repérés dans la presse étrangère par notre rédaction, que ce soit des articles russes, arabes, chinois, anglais ou américains. Et cela depuis 30 ans. Voilà. C'est le monde raconté par la presse étrangère et la France, l'actualité française aussi par la presse étrangère.
Voilà, c'est presque indispensable. Pendant la guerre du Golfe, par exemple, en 91, Courrier International traduisait ce qui se disait dans les journaux arabes. Et j'ai découvert que vous avez été le premier magazine français à mettre en couverture un inconnu américain, Bill Clinton, en 91. Vous avez pris la tête de la rédaction en juillet dernier. Vous avez succédé à Eric Scholl, qui était resté 7 ans et qui est parti diriger l'Express. C'est ça aussi la vie des médias. Quelques mois après votre arrivée, le baptême du feu, une pandémie mondiale, la crise du coronavirus. Comment avez-vous vécu cette crise sur le plan rédactionnel ?
Alors, c'est assez particulier parce qu'il y a eu deux choses. D'abord, c'est une crise mondiale, donc qui correspond, c'est vraiment le cœur de notre sujet. Notre rédaction a été regarder ce qui se passait dans le monde entier, dans la presse du monde entier, et c'est quelque chose qui nous a servi, parce que je crois que nos lecteurs ont compris ce que nous faisions et à quoi nous servions, à savoir que nous avons tenté d'éclairer chaque problème que nous vivions en France à travers ce qui s'était passé ailleurs, en Corée du Sud, au Japon, à Taïwan, à Hong Kong, mais aussi en Italie. Et c'est là qu'on a commencé le 13 mars, on a commencé à dire à la rédaction de rentrer chez elle. Et nous avons mis en place un télétravail, on a fait comme les autres, quand on a vu ce qui se passait en Italie, on s'est dit que la situation était suffisamment grave et que c'est la même chose qui allait se passer en France. On a fait notre première une le 17 mars, le 19 mars, sur la pandémie qui vient. Et ensuite, depuis, nous avons décliné depuis 2 mois des thématiques sur chaque semaine sur l'impact de la pandémie. On a fait l'urgence sociale, les menaces sur la démocratie, et tout ça à distance avec une rédaction qui a parfaitement fonctionner à partir de journaux qu'elle lisait sur les sites étrangers, principalement, puisqu'on est en télétravail.
Alors, je l'ai dit, c'est une pandémie mondiale, et vous, avec les antennes que vous avez, les périscopes que vous avez partout dans le monde, est-ce que cette crise a été perçue de la même manière dans le monde entier ?
Pas toujours, non, puisqu'on a vu qu'en Asie, notamment en Corée du Sud, le gouvernement avait été assez précurseur à anticiper. Certains pays comme Taïwan ou la Corée du Sud ont pu anticiper davantage la crise. D'autres pays aujourd'hui, comme le Brésil, subissent de plein fouet les conséquences de l'aveuglement de leur président. En France, le temps de réaction a été un peu long, on dira. L'Europe s'est avancée en ordre dispersé. C'est ce qu'on a essayé de montrer tout au long de ces 2 mois de crise, la façon dont chaque pays appréhendait, réagissait, confinés ou déconfinés d'ailleurs, et surtout il y a eu une sorte de cacophonie, notamment au niveau de l'Europe, qui a été compliqué à gérer.
Vous précédez un peu ma question suivante. Le thème du dernier numéro que je montre à la caméra sur Europe1.fr, dernier numéro qui est sorti hier jeudi, traditionnellement Courrier International sort le jeudi, santé, climat, même combat. Vous avez fait, vous l'avez dit, des thématiques pendant cette crise, coronavirus, nos vies bouleversées, un risque de pénurie vraiment, repenser le monde, nos démocraties peuvent-elles tenir, bonne question, la vie d'après. Alors, à l'intérieur des journaux, chaque semaine, les papiers manifestent une certaine cohérence entre eux. Est-ce que l'info est à ce point mondialisée? Est-ce que des journaux distants de milliers de kilomètres font désormais les mêmes sujets avec les mêmes angles? Ou est-ce que c'est vous, votre rédaction, qui les anglez, qui les regroupez?
Alors, c'est exactement le cœur de notre responsabilité éditoriale. On ne travestit pas les choses. Ce que vous disiez tout à fait très bien tout à l'heure, on a une rédaction qui a les yeux ouverts à 360 sur le monde, qui lit chaque jour la presse dans tous les pays, et ensuite, au cours de discussions entre nous, on s'aperçoit que tel journal a publié un article qui se recoupe avec un article en Chine. On a vu la même chose au Brésil. C'est comme ça qu'on construit, qu'on décrypte et qu'on anticipe des phénomènes, et qu'après on rassemble ces papiers, sachant qu'ils n'ont pas été écrits pour être justement rassemblés. Notre responsabilité, c'est de ne pas travestir la réalité. Dans le cas de la pandémie, c'est un peu plus facile parce qu'il y a objectivement quelque chose de mondial, et tous les journaux se sont mis à écrire, tous les journaux du monde se sont mis à écrire sur le sujet. Ouais. C'était beaucoup plus facile là de rassembler des choses, et c'est pour ça que chaque semaine on a construit des thématiques en fonction de ce qui remontait de la presse.
Alors cette semaine, santé, climat, même combat, la question posée est la suivante: est-ce qu'avec cette crise du coronavirus, l'économie va enfin passer au vert, c'est-à-dire devenir écolo? Alors c'est assez intéressant ce que vous citez dans votre éditorial, le magazine The Economist du 21 mai. The Economist écrit: la crise du Covid-19 et la crise climatique ne font pas que se ressembler, elles interagissent. De quelle manière?
Eh bien, il y a plusieurs choses. Il y a un exemple qui est cité dans un des papiers qui dit, par exemple, on a largement imputer l'épidémie actuelle, enfin une des causes possibles de l'épidémie actuelle, c'est la déforestation qui a entraîné un problème avec les animaux sauvages, c'est l'origine de l'épidémie à Wuhan. On fait d'ailleurs 4 pages dans le journal cette semaine sur les animaux sauvages.
Alors, on va en parler de ces 4 pages juste après une pause, qu'elles sont passionnantes, mais continuez, Claire.
Donc la déforestation a pu être un facteur aggravant et provoquant de l'épidémie. La déforestation est aussi un facteur aggravant du réchauffement de la planète. Donc quand on veut lutter contre l'un, autant lutter contre l'autre à la fois. L'urgence sanitaire et l'urgence climatique se rejoignent. Et il y a des signaux intéressants en voyant ce sens. Hier, Ursula von der Leyen a annoncé le plan de relance de la Commission européenne, qui inclut une partie verte. On peut espérer qu'au moment où on déploie des milliards dans l'économie mondiale, pour relancer l'économie mondiale, on aura une attention pour le climat, pour lutter contre le réchauffement climatique, qui sont les mêmes qui sont les mêmes côtés. Enfin, il y a le même enjeu qu'avec contre la santé.
Puissiez-vous être entendu, parce que je l'ai appris dans le Courrier International, au même moment qu'il y avait la crise, la Chine vient de décider de lancer de nouvelles centrales à charbon. On marque une pause, on se retrouve tout de suite.
Le grand classique de la presse, Courrier International, fête ses 30 ans cet automne. On continue à parler de son actualité dans un court instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et ce matin dans Culture Média, c'est Claire Carrard qui est notre invitée, la directrice de la rédaction de Courrier International, Philippe.
Et alors je reviens aux fondamentaux de Courrier International, c'est traduire des articles auxquels on ne s'intéresse pas traditionnellement en France, voire même en Occident. Par exemple, je l'ai dit, une double page passionnante traduite du journal chinois Nanfang Zuomo, c'est un journal de Canton. Il est consacré aux animaux sauvages et ça démarre très très fort. C'est un chinois qui écrit. Pour les amateurs de gibier, il est compliqué de savoir quel animal il est aujourd'hui possible de consommer avec la publication de nouvelles mesures et règlements. On pouvait manger du rat et de la chauve-souris, on ne peut plus. On peut toujours manger du crocodile et de la salamandre géante alors qu'ils sont issus d'élevage. Quant aux serpents et aux crapauds épineux géants, leur consommation était suspendue et il est difficile de dire s'il sera possible d'en manger à l'avenir. C'est pas le sketch d'un humoriste, c'est un article très sérieux, Claire Carrard.
Oui, c'est un article très sérieux et très important. C'est un ensemble de 4 pages que nous avons consacré à la question des animaux sauvages en Chine. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu comprendre en profondeur pourquoi les Chinois étaient si friands de rats, crapauds, ce que vous disiez, de tortues et autres serpents. Tout ça parce qu'on soupçonne un animal sauvage d'être à l'origine de la pandémie de Covid-19. Et plutôt que de repartir sur une enquête sur l'animal, l'origine de la pandémie, on est allé voir ce qui se passe en Chine de façon culturelle, en quoi la consommation d'animaux sauvages est si importante dans la culture chinoise, quel est l'impact économique. Et cet article raconte, cette formidable enquête raconte en quoi c'est important. Il y a, la filière quand même représente 14 millions de personnes en Chine. Elle raconte l'importance pour les Chinois de la consommation, du commerce des animaux sauvages. L'Assemblée nationale populaire chinoise a justement en février adopté une loi pour essayer de légiférer, de contrôler, d'interdire le commerce et la consommation illégale. Du coup, les éleveurs sont un peu dans le désarroi, plongés dans le désarroi. C'est un enjeu économique majeur pour eux. Et ils cherchent à comprendre, parce que les listes qui ont été publiées sont ce que vous racontiez tout à l'heure et ce que vous lisiez tout à l'heure. C'est un peu une liste à la Prévert. Il y a des animaux qui sont interdits, d'autres on ne sait plus très bien s'ils sont interdits. Et voilà, l'enquête raconte tout ça. C'est passionnant, ça raconte le désarroi des éleveurs de serpents. Qui ont des stocks, des milliers de serpents dont ils savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas les vendre, ni les commercialiser, ni les abattre.
Et ils se posent de ces questions. L'auteur de l'article écrit: les éleveurs de crapauds inondent de coups de téléphone les services du ministère de l'Agriculture. L'un d'eux donne ce conseil suivant: si on veut discuter avec l'administration chinoise, il dit, faut avancer de solides arguments. Par exemple, pourquoi ne pourrait-on pas élever des crapauds épineux géants alors qu'on a le droit d'élever des crapauds bulles? C'est une bonne question. Je souris, mais c'est très très sérieux. Vous l'avez dit. 14 millions de personnes en Chine vivent de cette filière, et alors il y a même les gourmets qui se posent des questions. La municipalité de Shenzhen, dans le sud du pays, Absolument. A publié une liste d'animaux terrestres consommables qui comprend le bœuf, le porc, mais exclut les animaux de compagnie comme les chats et les chiens, vous l'avez dit. La démarche a fait réagir les internautes qui se demandent si des mets de choix, un truc très bon, comme le crapaud buffle cuit sur les grilles ou la tortue braisée à la sauce soja, ne risquent pas de disparaître des cartes de restaurants. Et c'est là où on voit vraiment la force de Courrier International. Sans vous, moi, j'aurais jamais découvert cette info.
Oui, là, cet article est vraiment absolument passionnant à lire. En plus, il est complété par un autre article qui explique justement ce que vous disiez sur les animaux de compagnie, qui explique cette tradition, l'importance culturelle. La plupart des Chinois consomment ces animaux sauvages parce qu'ils pensent que c'est des fortifiants. C'est aussi un signe extérieur de richesse pour eux. Mmh. Et ce qui est bien par rapport à cet article, c'est le deuxième article qui le complète et qui appelle justement un changement des mentalités, parce que sinon, l'image de la Chine ne progressera pas, et puis les protecteurs de l'environnement en Chine sont... Vous parliez de la révolte des éleveurs tout à l'heure, les protecteurs de l'environnement et les défenseurs des animaux se mobilisent aussi. Donc c'est un débat effectivement dont on n'a pas trop entendu parler jusque-là en France.
On va quitter la Chine, on va prendre de la hauteur, on va revenir à des questions médias. Comment se portent les ventes de Courrier International? Je veux dire, je connais la réponse, qu'il y a même une pleine page de pub. D'autopromo, page 37. Merci pour votre confiance, écrivez-vous. Vous donnez 2 chiffres avec un tableau depuis le 19 mars, depuis le début du confinement. Les ventes en kiosque ont grimpé, les abonnements numériques ont grimpé.
Absolument, les ventes en kiosque ont augmenté de 50% et on a récupéré 20 000 abonnés numériques. Je pense que ça récompense le travail d'une équipe, d'une rédaction qui s'est beaucoup, beaucoup mobilisée depuis 2 mois. Et aussi, je pense qu'il faut pas non plus pavoiser. C'est aussi parce que le cœur du journal, notre spécificité, c'est l'actualité internationale. Et je crois vraiment que maintenant, tout le monde a compris que c'était bien une crise mondiale et qu'il est important de regarder ailleurs pour comprendre ce qui se passe chez nous. C'est le regard décentré. C'est vraiment ce qu'on fait en permanence, le regard décalé. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre les problématiques françaises simplement en se regardant le nombril. Je crois que Courrier regarde ailleurs et éclaire les situations d'un œil, comme ce qu'on fait là sur les animaux sauvages. Ouais. Ça permet de comprendre beaucoup de choses différemment.
On est bien d'accord avec vous. Comment vous voyez la sortie de crise? Je vais dire le sens de ma question, parce qu'il y a une crise qui se rajoute à la crise. Les problèmes de Presstalis qui diffuse les 3/4 de la presse en France.
C'est plus compliqué. C'est la mauvaise nouvelle dans l'euphorie des ventes. Là, dernièrement, les derniers numéros, ben, on était fortement pénalisés. C'est une situation très grave de la distribution en France. Donc, il y a des journaux qui sont moins distribués, ben, sont moins vendus, sont moins lus. Et on sait très bien que depuis 2 mois, on a eu visiblement beaucoup de nouveaux lecteurs. Si on ne reparaît pas en kiosque ou si on est difficilement accessible dans les points de vente, très vite, les lecteurs pourraient passer à autre chose. Et ça, il faut absolument qu'on essaie de les garder. Pour l'instant, la situation est compliquée. Ça va un petit peu mieux. Il y a eu un très mauvais passage il y a 3 semaines. Là, et il y a eu aussi, en raison du confinement, des difficultés de distribution. On a dû annuler la parution d'un hors-série. Donc la sortie de crise va être compliquée. Nous, on est moins dépendants de la publicité, de l'effondrement publicitaire. Donc ça nous concerne moins. Mais globalement, le retour va être, le réveil va être compliqué.
Et Claire Carrard, vous parliez de regard décentré. Je vais finir avec ça. J'ai adoré cet article en page science qui s'intéresse aux conséquences du télétravail. Tout le monde fait du télétravail, y compris à la NASA. En cette période de télétravail, les chats des ingénieurs se baladent parfois sur leur clavier. Est-ce que c'est risqué? C'est une vraie question. Tout est parti d'un tweet d'une astrophysicienne de la NASA. Elle s'appelle Amber Strone. Elle écrit « Pendant une réunion virtuelle, nous nous demandons comment empêcher les chats de prendre accidentellement les commandes d'un engin quand on travaille chez soi sur un ordinateur portable et pas dans un bâtiment. Zéro chat de la NASA. » Ça sera ma dernière question, Claire Carrard. Est-ce que vous avez un chat?
J'ai un chat et j'ai absolument adoré ce papier. Je suis contente qu'il vous ait plu parce que j'ai eu exactement les mêmes problèmes en visioconférence où mon chat a un petit peu fait les commandes et a tapé l'ensemble de la rédaction.
Tant que c'est pas lui qui fait les titres de Courrier International, merci beaucoup. Merci Claire Carrard, directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Courrier International. Merci pour votre énergie et votre humour.